relève, Europe. Ta vie ne sera plus jamais comme avant.
Europe ! Europe !
Tu n'as jamais entendu à l'école parler de Io, transformé en génisse par Jupiter ?
Jupiter ! Jupiter ! Et toi, t'es qui ?
Je suis le plus redoutable et le plus doux des dieux.
Bon, le moment est venu de te présenter mes amis les vacantes.
C'est ça, être un dieu ?
Et oui, il ne manque plus qu'Hermès. Des dieux, un homme et une femme ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question d'étoiles, de chiens, de jardins, d'Arménie, de collections, d'expositions et même d'Indiens. Avec Gérard Garouste pour sa rétrospective En chemin à la Fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence. Retour sur ces 10 années... sur ces 10 dernières années travaillées par les textes sacrés, avec pour la première fois la mise en lumière des coulisses de sa peinture, Émilie Chaudet.
Du conte mythologique au récit épique, retour sur le parcours d'un peintre fasciné par le repentir, celui de la peinture, recouvrir pour effacer, pour redessiner et réexplorer de nouvelles voies artistiques.
19h30, la session sera inédite avec Nose, Émilie.
Le duo électro Nose était déjà venu dans le rendez-vous en mai dernier, nous les réécouterons avec un titre Apache, extrait de leur album Come With Us, une session qui était programmée à l'époque par notre réalisateur Thomas.
19h35, le plateau sera mode avec Véronique Nichanian à la traite du... aujourd'hui, c'est impossible.
Mais c'est parce que c'est
on arrive à la fin, oui. À la tête du prêt-à-porter masculin d'Hermès, retour sur un parcours de 27 ans, une exception culturelle pour une innovation du vestiaire masculin. Toujours Émilie.
Une styliste.
Ah, vous voyez, vous aussi.
Moi aussi, c'est contagieux. Qui dit concevoir ses vêtements comme des morceaux de temps, des pans d'histoire humaine, plutôt que comme une image.
C'est l'émotion qui nous submerge. Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Fez que l'on ouvre sur le son du jour.
Nous sommes en 2015, vous regardez l'enceinte d'Internet, bonsoir.
Bonsoir Zoé Fez, c'est votre son
bonsoir
du jour.
Laurent, bah oui, bonsoir à tous, un son que vous reconnaissez sûrement, c'est la fameuse phrase d'ouverture du PPDA des Guignols de l'Info. Les Guignols de l'Info qui seraient aujourd'hui sur la sellette. Vincent Bolloré, nouveau propriétaire du groupe Canal+, puisqu'il a acquis Vivendi, aurait décidé de se débarrasser de l'une des émissions les plus emblématiques de la chaîne. Il aurait fait part, selon les sources que j'ai pu interroger à Canal+, de son désir de se débarrasser d'une émission qui se moque trop des gens, comme il l'avait laissé entendre sur France Inter, juste après la fin de la dernière émission de l'année, 2 jours seulement après la mort d'Alain Degreff, ancien directeur des programmes du Canal, qui avait été le père des Guignols. Une information en partie confirmée tout à l'heure par Pierre Lescure, ancien patron de Canal, qui a démissionné cet après-midi de son poste au conseil d'administration de Havas, un groupe aussi possédé par Vincent Bolloré, justement pour pouvoir s'opposer à Vincent Bolloré sur cette question des Guignols. Selon toujours ces mêmes sources, Rodolphe Belmer, le patron actuel de Canal+, aurait mis sa démission dans la balance pour que cette décision ne soit pas prise. Elle sera en effet discutée demain en conseil d'administration. Des milliers de téléspectateurs, mais aussi plusieurs hommes politiques ont fait part de leurs craintes sur Twitter et ont signé une pétition pour soutenir les Guignols qui a déjà été signée par plus de 30 000 personnes ce soir.
Et tout de suite, on passe au dossier du jour consacré à l'École nationale des beaux-arts de Paris. Le directeur de l'école, Nicolas Bourriaud, en poste depuis 2011, serait sur le point d'être renvoyé sur décision du ministère de la Culture, alors que son mandat courrait encore pendant 2 ans. Selon le Canard enchaîné, son successeur serait Éric de Chassé, actuel directeur de la Villa Médicis à Rome, et proche de Julie Gayet, toujours selon le Canard enchaîné.
Oui, alors l'article est paru hier. Il explique que Julie Gayet est très proche en fait de la compagne d'Éric de Chassé, l'actrice Anne Consigny, et qu'elle aurait en fait joué des coudes pour que le poste arrive entre les mains d'Éric de Chassé. Et ce alors que, on l'a dit, Nicolas Bourriaud a été reconduit pour 3 ans à son poste en 2014. À l'époque, la ministre de la Culture, c'était Aurélie Filippetti. Alors même si son programme qui comportait un large éventail de réformes a créé des tensions dans l'école au début de son mandat, il semblerait aujourd'hui que la situation soit largement apaisé et que le bilan soit plutôt bon, d'où sa grande surprise quand Nicolas Bourriaud a découvert la nouvelle.
Écoutez, en lisant le Canard enchaîné hier, ma surprise est d'autant plus forte que tous les indicateurs de l'école sont ouverts, soit que ce soit en termes de gestion, en termes de projets artistiques, que les ateliers ouverts de l'école qui viennent de se dérouler en fait ont accueilli près de 6000 visiteurs. Donc il y a un vrai engouement autour de l'École des Beaux-Arts aujourd'hui et je suis extrêmement fier d'y avoir contribué, mais une fois encore avec l'ensemble des acteurs de l'école. Les tensions sont survenues les années précédentes, je revenais aussi d'un déficit de démocratie, je dirais, au sein de cette école. Un déficit d'une grande opacité également dans les décisions. C'est ce toute cette zone-là a été vraiment profondément transformée. Et je pense que, en tout cas, l'héritage, genre, si je dois partir, que je laisse, en fait, sera important, en ces termes, en tout cas, pour l'école.
Surprise aussi chez le personnel de l'école de
Beaux-Arts. Oui, puisque même si effectivement il y a eu cette tension en début de mandat, qu'il y a eu aussi une erreur de communication assez large à la rentrée dernière, puisqu'il y avait un défilé de Ralph Lauren, l'un des sponsors de l'école, qui avait obligé à ce que 14 ateliers soient fermés aux étudiants pendant une semaine. Le personnel soutient plutôt globalement son dirigeant, c'est le cas notamment de Jean-Luc Villemoust, il est artiste et directeur des études aux Beaux-Arts.
Oui, j'étais surpris parce que je ne m'attendais pas du tout à ce bouleversement. Et donc, ça a été vraiment une surprise de le découvrir parce qu'il n'a pas vraiment eu beaucoup le temps. Bon, il se trouve qu'au début, il y a eu un petit raté avec l'histoire de Ralph Lauren. C'est un raté de Nicolas Bourriaud, c'est vrai. Mais je pense qu'on ne peut pas juste tenir compte de ça parce que je pense qu'il y avait plein d'autres projets qui étaient en cours. Et malheureusement, c'est stoppé là maintenant de manière un peu brutale. Moi, je ne tiens pas spécialement à faire un problème de personne parce que Éric de Châtier va donc être sans doute le prochain directeur de l'École des Beaux-Arts et quelqu'un que je ne connais pas bien. Je n'ai pas de problème avec lui, absolument pas. Simplement, ce que je trouve un peu brutal, c'est la manière dont ça se passe.
Car la décision semble bel et bien actée.
Oui, le débarquement de Nicolas Bourriaud, en tout cas, semblerait l'être. L'intronisation d'Éric de Chasset reste évidemment de l'ordre de la rumeur. Le ministère de la Culture n'a pas donné suite à notre demande d'interview, mais les dés semblent presque joués. C'est en tout cas ce qui ressort de ce que nous a dit Nicolas Bourriaud.
Je viens de voir la ministre ce matin. On a parlé de changement d'orientation, de sa politique en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Peine, cela dit, à comprendre en quoi la politique que je mène à l'école depuis maintenant 4 ans, et avec beaucoup plus d'intensité depuis un an, ne correspond pas à ces orientations. Donc j'ai bon espoir que la ministre revienne sur cette décision qui me paraîtrait complètement injuste. Et j'espère, en tout cas, qu'on n'est pas dans l'état d'esprit qui est commenté dans le canard enchaîné hier, parce que ce serait un scandale absolu. C'est-à-dire que si j'ai un successeur qui soit nommé par discrétion du gouvernement et qu'il n'y a pas au moins un appel à projet, comme ça a été le cas lors de ma nomination, je considérerais ça comme un scandale.
Voilà, alors si une telle révocation devait avoir lieu, ce serait une des premières entorses à la règle tacite qui veut que les directeurs d'école d'art soient nommés pour 3 ans, et ce alors qu'un décret doit être publié dans les prochaines semaines pour entériner cette règle et l'officialiser. Selon Nicolas Bourriaud, aujourd'hui, son sort est entre les mains du président de la République.
Peut-être des réactions de la part de nos deux invités, Gérard Garoust, peintre, sur ce dossier.
Écoutez, sur ce dossier, Bourriaud, c'est quelqu'un qui, en tant que directeur d'école, je ne sais pas ce qu'il fait comme travail, mais je ne pense pas qu'il annonce, en tous les cas pour les élèves, je ne pense pas qu'il annonce les temps futurs. Je pense qu'il confirme avec une fin de XXe siècle plus que les temps futurs. Bon, ça c'est un sentiment personnel. Mais ce qui me frappe plutôt, c'est que depuis le début de cette émission, on cite des gens qui partent, les guignols de l'info, etc. Et en fait, ce qui me fascine, c'est qu'on passe entre les gouttes de certaines personnes qui, eux, sont là pour, on a l'impression, il vaut mieux pas en parler, Patrick Buisson, par exemple. Le président, directeur de la chaîne Histoire. Vous savez qu'il y a deux chaînes Histoire.
Ouais.
Toute l'histoire qui risque d'être éjectée, alors que toute l'histoire, c'est une chaîne vraiment très très bien. Et Histoire qui est quand même tenue par un mec d'extrême droite, comme il faut le savoir. Mmh. Tout le monde le sait, mais là, on n'y touche pas. Même Hollande l'a remis Et alors là, Patrick Bourriaud, Nicolas Bourriaud et tout ça, c'est des gentils par rapport à des personnages comme ça. Donc, je trouve que souvent les informations, comme on peut pas tout dire dans les informations, on parle souvent de d'arbres qui cachent la forêt. Tout à l'heure dans les informations, on parlait de Le Pen en vitesse. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler dans cette émission.
On en parlera tout à l'heure si vous voulez. En effet, Véronique Nichanian.
Non, mais surtout, on a l'impression quand même que cette décision est prise d'une façon totalement arbitraire. C'est incompréhensible. Donc, on a envie d'avoir un peu plus d'explications parce que c'est un peu brutal et violent.
Si ce que dit le canard enchaîné est confirmé, en effet, selon Nicolas Bourriaud, ça sera véritablement un scandale. On y reviendra.
Absolument, oui.
Tout de suite, on passe au bref avec la justice qui donne raison à Plantu sur sa caricature du pape qui sodomisait un enfant.
Oui, la Cour d'appel de Paris a débouté jeudi de ses demandes d'indemnité une association proche des catholiques intégristes qui avait attaqué Plantu pour un dessin du pape Benoît XVI qui était dessiné en train de sodomiser un enfant. L'enfant disait « quitte à se faire enculer, autant aller voter dimanche ». C'était en référence aux élections régionales. Le tribunal a également rejeté la demande de dommages et intérêts réclamée par le caricaturiste à l'Alliance Générale contre le racisme et le respect de l'identité française pour poursuite abusive. L'avocat de Plantu, Christian Charrière-Bournazavel, avait accusé la Grive de vouloir introduire dans le code pénal le délit de blasphème.
Deux villes yéménites classées au patrimoine en danger par l'UNESCO.
Exactement, c'était la vieille ville de Sanaa, la capitale du Yémen, qui a déjà subi de sérieux dommages en raison du conflit armé qui oppose les chiites aux forces gouvernementales, notamment surtout le quartier Al-Qassim, et puis aussi l'ancienne ville de Shibam, édifiée au XVIe siècle sur un éperon rocheux. Son mur d'enceinte aussi a été inscrit sur la liste des sites en danger par l'UNESCO.
Et la dernière?
C'est une histoire de lait. Voilà, c'est une de mes dernières, c'est ma dernière petite histoire. Elle n'est pas très intéressante, mais elle est sympathique. C'est un conflit entre l'art, le lait et l'économie. Voilà. Alors, il y avait une inauguration officielle très attendue aujourd'hui dans la ville de Vienne, dans l'Isère. C'était l'inauguration d'une statue de vache. Une statue de vache offerte par le groupe laitier Yoplait, qui avait été offerte par la ville. C'était une commande qui datait déjà, créée par l'artiste de rue français Gad Veil à l'occasion des 50 ans de la marque Yoplait. C'est une sculpture métallique qui devait être installé en plein centre-ville, devant le temple romain d'Auguste et de Livy. Je trouve ça assez beau. Face à Auguste et Livy, il y avait la vache. Et finalement, cette inauguration a été annulée. Pourquoi? Parce que les éleveurs de vaches, et notamment et les gens qui produisent du lait, ont rappelé que, ironiquement, alors qu'on offre cette fameuse statue à leur ville, le prix du lait n'a jamais été aussi bas et que personne ne rentre dans ses frais dans cette situation scandaleuse. La vache va disparaître.
Est-ce forcément une mauvaise nouvelle?
Moi, j'aime bien les vaches.
Ah oui, c'est vrai.
C'est mon petit côté bovin.
C'est impossible de dire des choses comme ça. Un commentaire. Vous vouliez revenir sur Le Pen tout à l'heure. Non, mais peut-être un commentaire sur ça et ensuite sur Le Pen.
En tous les cas, ça va donner un argument à l'artiste de se manifester un peu, d'exister.
Censure, voilà. Ah,
donc c'est formidable. Il faut jamais oublier que pour un artiste contemporain d'être critiqué, c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver.
Après le plug anal Place Vendôme, la vache à Vienne, vraiment.
C'est plus Yoplait que visiblement la sculpture, qui paraît-il.
Oui, mais lui va récupérer. J'espère pour lui qu'il en profite un petit peu, qu'il va se connaître.
Sur Le Pen.
Sur Le Pen, oui. Mais écoutez, non, mais quand on entend les informations de tout à l'heure, c'est un mauvais coup pour Marine Le Pen parce que tout d'un coup, moi je vous renvoie à un film extraordinaire qui s'appelle La menace brune, qui est passé à la télévision une fois dans une heure convenable, et puis maintenant elle repasse à 2h du matin. Moi, je l'ai vu à 2h du matin. La menace brune, c'est un film sur la montée de l'extrême droite depuis la guerre jusqu'à 2011. Vous croyez, ce film est formidable parce que c'est un film avec des sociologues, des politologues, et puis même personne ne peut s'opposer à ce film parce qu'il y a même des interviews de Le Pen qui revendiquent toute sa carrière avec... Et quand on voit quand Jospin a été blackboulé par Le Pen, justement, quand vous voyez la joie de Marine Le Pen pour son père, etc., comment peut-on croire aujourd'hui, comment des personnes peuvent croire aujourd'hui qu'elle a changé de conception des choses? Là, elle a envie de gagner les élections, tout est bon pour qu'elle gagne les élections, mais Marine Le Pen et Le Pen, c'est exactement la même chose, le même esprit, et elle a le même esprit que Jean-Marie Le Pen. Vous savez, il y a tout simplement, quand je vois ça, ça me fait penser à un proverbe, il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. La montée de l'extrême droite est grave, le cas Le Pen est grave dans la mesure où les gens ne veulent pas voir les conséquences, et sur un plan purement politique, si par malheur Marine Le Pen passait aux élections, mais la France serait vraiment dans une situation grave.
19-20, le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau rétrospective avec vous, Gérard Garouste, une rétrospective de vos 10 dernières années de création qui a ouvert samedi dernier à la Fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence. À vos côtés, Véronique Michagnan, directrice artistique des collections Hommes pour Hermès. En off, tout à l'heure, avant qu'on commence l'émission, je sais que vous ne vous connaissiez pas, mais qu'à l'époque, vous fréquentiez les mêmes lieux, des lieux de fête, Véronique Nichanian.
Oui, non, je félicitais, je rappelais à Gérard Garroust que je connaissais parfaitement ses fresques à l'époque du Palace et du Privilège, où j'ai commencé, disons, ma vie nocturne, et ça nous rappelait de très joyeux souvenirs, parce que c'était une époque où la vie parisienne était très libre et amusante. Donc voilà, c'est comme ça. Non
Gérard ?
Oui, moi ça a été mon premier job en fait, parce que je gagnais pas du tout ma vie en peinture. De faire les décors du palace et les fresques du privilège, ça me laissait beaucoup de temps pour peindre. Mais il faut les peindre, il faut les suivre Fabrice Aymer, qui était un personnage que j'aimais beaucoup, mais il fallait, moi, je faisais pour le...
C'était le directeur des lieux.
Voilà, c'est ça.
Le et donc, maître de cérémonie.
Moi, je me couchais vers 5 heures du soir, je dormais vers 5 heures, et je me levais vers 4 heures du matin pour finir la nuit avec lui, parce que j'avais pas envie de vivre à son rythme, parce que là, les journées ont été foutues, mais, et les fins de nuit avec lui, qui se terminaient par un petit déjeuner dans le palace, tout ça était une ambiance absolue. Ah oui,
vous y participiez aussi?
Non, j'ai pas connu, non, moi j'étais...
Vous couchiez avant?
J'étais, oui, je me couchais beaucoup plus tôt. J'étais une jeune assistante de Nino Cerutti à l'époque. Et donc, Fabrice Aymer et son bras droit, Claude Ransan, m'avaient pris gentiment, je ne sais pas pourquoi, sous leur aile. Et me faisaient rentrer, ils m'offraient des coupes de champagne. Voilà. Mais je faisais le début de la nuit, si Gérard faisait la fin.
Mais c'est une équipe formidable. L'idée, il fallait toujours trouver des idées. À un moment donné, j'avais comme projet de recouvrir le Concorde en plumes d'autruche. Et il fallait qu'on... Décollage,
toutes les plumes.
Et heureusement, il a un peu perdu cette idée. Donc,
vous avez fait des soirées déguisées
Moi, j'ai été à des soirées déguisées de Karl Lagerfeld, notamment. Enfin, et c'était un bal, d'ailleurs. C'était magnifique, je m'en souviens encore.
Vous étiez déguisé en quoi?
Je me souviens plus en quoi j'étais déguisé. Je sais pas.
On sait toujours.
La thématique, oui, je vous le dirai pas. Alors, hypocritement, je vous le dirai pas. Mais c'était des fêtes fastueuses, vraiment.
Oui. Et vous les relancez, Fabrice, vous les relancez, un peu l'idée des fêtes du 18e siècle.
Tout à fait.
On va remonter plus loin que les 10 dernières années de travail, car votre parcours de peintre, Gérard Garroust, commence dans les années 80, avec une toile qu'on a souvent présentée comme fondatrice et qui porte le nom d'une étoile, c'est Adara, 1981. Peut-être que je vous la laisse décrire, parce que c'est une toile vraiment emblématique du travail et qui surtout s'est imposée sur la scène américaine à ce moment-là, dans les années 80.
Au niveau, déjà, à l'époque, il y a l'idée de faire vraiment de la peinture, de l'huile, une huile tendue sur châssis, ce qui n'était pas franchement, en plus, un sujet très figuratif. Et j'ai la chance que cette toile parte à New York avec 10 autres artistes français. Et le sujet, c'était sur le côté aléatoire, c'est-à-dire cette composition. Il y a deux personnages. Que j'appelle le classique et l'indien, suite à la suite d'un rêve que j'ai fait. On pourra revenir sur pourquoi un classique et un indien. Mais en fait, en sous-couche, sous cette croûte, il y a une composition qui est extrêmement organisée et qui reprend la constellation
d'Orion,
exactement. D'où ce thème d'Orion, Orion le classique, Orion l'indien. J'ai fait pas mal de tableaux sur ce thème-là. Et ce tableau arrivé à New York, il y avait pas mal de marchands qui venaient me voir en disant est-ce que le vieux lion a vu ce tableau? Alors moi je me dis
qui est ce vieux lion?
Et en fait les marchands me disaient: écoutez, si le vieux lion n'est pas intéressé par ce tableau, moi je suis prêt à signer un contrat avec vous. Alors, on va voir ce que c'est que ce vieux lion. Et en fait c'était Léo Castelli. Léo Castelli m'a pas dit est-ce que d'autres ont vu ce tableau. Il m'a dit: nous allons travailler ensemble. Et donc j'ai commencé vraiment ma carrière avec Léo Castelli. Et
première grande exposition à New York, suivie quelques ans plus tard, enfin très peu de temps après, grande exposition à Beaubourg, donc fin des années 80.
Voilà, c'est ça. Et justement à cette époque-là, je faisais des décors au palace, et il me dit: quand est-ce qu'il faudrait faire une exposition très vite? Et je lui dis: mais je suis obligé de faire des décors pour vivre. Il me dit: mais combien il vous faut par mois? Alors, gling, 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 je raisonne.
Et alors, il vous fallait combien par mois à l'époque? En francs?
À New York,
en sesterces?
Je sais pas ce que j'ai dit, plutôt une somme modeste, du mot, pour que je puisse peindre, en tous les cas. Il m'a dit: pas de problème. Et j'ai pu peindre pendant un an sans qu'il ait le moindre tableau. Et puis, j'ai fait ma première exposition à New York.
À côté de votre travail pour Hermès, sur lequel on va revenir tout à l'heure, Véronique Nichanian, est-ce que vous dessinez pour vous-même?
De moins en moins.
Oui. Mais vous l'avez fait?
Oui, je l'ai fait beaucoup au début.
Quel motif? Enfin, quelle sorte de dessin?
Non, je dessinais des silhouettes, je dessinais des détails, des vêtements sûrement depuis l'enfance, enfin l'adolescence, mais des détails. Non, j'ai pas les talents de peintre ou même de grand dessinateur de Gérard Garousse. Moi, c'est toujours appliqué à mon travail.
C'était quoi ce rêve alors, du classique et de l'Indien?
Le classique, j'ai fait vraiment un rêve qui dans mon rêve, il y avait une voix off qui me disait, tu sais, dans la vie, tu as deux sortes d'individus, des classiques et des Indiens. Je me réveille, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire? Je comprendrais classique et moderne, ou classique et romantique, Indien et cow-boy, mais quel est le rapport entre classique et Indien? Et mon ami Jean-Michel Ribes, qui était un ami de pension, qui parle espagnol, il me dit, mais t'as fait un jeu de mots dans ton rêve, parce que entre classique et cacique, parce qu'un cacique, c'est un chef indien. Alors déjà, un cacique et un indien, on peut comprendre. Et aujourd'hui, si vous prenez un dictionnaire et vous regardez la définition d'un cacique, un cacique, c'est quelqu'un qui réussit partout. C'est une bête à concours, il réussit Sciences Po, l'ENA, etc. Alors là, tout d'un coup, ça prenait du sens. C'est-à-dire qu'un cacique, c'est en effet un classique, c'est quelqu'un, je sais pas, un homme politique, par exemple. Et en fait, ce personnage, c'est un thème qui est très récurrent chez moi parce que...
Vous en avez même fait une pièce de théâtre.
Oui, bien sûr. Et puis, en fait, c'est quelque chose qu'on a tous en nous. Nietzsche, par exemple, parle de l'apollonisme et du dionysiaque, c'est-à-dire ce côté Apollon et ce côté Dionysos, ivre, etc., l'intuition, la folie, etc. Et puis, c'est le rapport qu'il peut y avoir entre le clown blanc et l'Auguste. C'est pas un hasard si je me suis intéressé à... si j'ai fait des tableaux sur le Don Quichotte avec Sancho, parce que Don Quichotte et Sancho, c'est deux entités d'une même personne, en fait. De même que quand j'ai fait le Faust de Goethe, Faust et Méphistophélès, c'est aussi deux contraires comme ça qui sont complémentaires et qui s'opposent. Donc j'aime beaucoup cette idée comme ça du classique et l'indien. Et on a tous en nous un côté classique et un côté indien. Il faut pas être trop classique parce qu'on devient franchement ennuyeux. Et il faut pas non plus être trop indien parce qu'on sort pas d'un hôpital psychiatrique, par exemple.
Émilie Chaudet.
Cette exposition rétrospective, Gérard Garousse, ça porte un nom, donc c'est En chemin. C'est une référence à une phrase du rabbin Narman de Bratslav, qui figure au début de la présentation de votre exposition. Ne demande jamais ton chemin à celui qui le connaît, tu risquerais de ne pas t'égarer. Qu'est-ce que ça dit de votre trajectoire artistique?
En chemin, c'est un thème qui est très très basique, je dirais, dans la pensée juive, dans la mesure où la Bible est à son commentaire qui est le Talmud, et dans le Talmud vous avez deux parties, la partie halakha qui veut dire justement en chemin, c'est-à-dire toute cette pratique de l'étude des lois, c'est en chemin, c'est comme si on étudiait les lois tout en marchant. Et puis, vous avez la partie Haggadah, les Haggadot, les Midrash, etc., qui sont les récits. Et donc, personnellement, ce côté être en chemin pour... il y a dans l'idée d'être en chemin, on sent justement du côté de Rabbi Nachman de Breslav, un côté en devenir, comme ça. On ne sait pas vraiment où va on sait pas où va ce chemin, mais ce qui compte, c'est d'être en devenir et de... c'est pas un hasard si, par exemple, au début, j'avais fait beaucoup de tableaux sur la Divine Comédie de Dante, parce que justement, ça commence dans une forêt obscure où Dante et Virgile avancent comme ça, d'une manière très inquiétante.
Comme à tous nos invités, on vous a demandé un son qui vous a marqué. Voici ce que vous avez choisi, Gérard Garousse.
Well now, what's it to be, Lord? Another widow? How many's it been? Six? 12? I just remember. You say the word, Lord. I'm on my way. You always send me money to go forth and preach your word. A widow with a little wad of bills hid away in a sugar bowl. Lord, I am tired. Sometimes I wonder if you really understand. Not that you mind the killings. Your book is full of killings. But there are things you do hate, Lord. Perfume-smelling things,
lacy things, things with curly hair.
Identification de ce son et la raison pour laquelle vous l'avez choisi.
D'abord, c'est un de mes films préférés, La Nuit du Chasseur. Et tout est bien dans ce film. Tout est bien. Et là, on vient d'entendre le début du film quand Robert Mitchum en pasteur. Il est en chemin justement, avec dans une vieille voiture. On entend le bruit de cette vieille voiture,
ouais,
mais il y a cette idée d'être en chemin qui est importante. Symboliquement, il est. C'est un film des années 50. Charlton, c'est le seul film de Charlton. Hein, c'est assez étonnant. Et c'est un conte. C'est vraiment un conte où les méchants sont. Les adultes, soit ils sont naïfs, soit ils sont méchants. Et ces deux enfants, un frère et une sœur, qui comprennent ce qui se passe et en fait ils vont s'opposer à ce personnage qui est un pasteur. Vous savez, c'est la fameuse histoire où il a sur sa main écrit hate et l'autre love comme ça. Et moi, ça me marque beaucoup. J'aime bien l'idée d'avoir une main un peu douteuse et une main un peu sérieuse. Moi,
c'est ce que vous avez d'ailleurs.
Ben oui, j'aime bien.
Vous avez une main avec des
absolument,
bagues, c'est ça, Véronique
Michagnan. Je suis fascinée depuis tout à l'heure.
Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?
Non, parce que je trouve en effet que vos mains sont très très révélatrices. Vous avez une main, je suis fascinée, j'allais vous demander de la prendre en photo. Alors je raconte pour les gens qui nous, évidemment les auditeurs, votre main gauche est à chaque doigt a une bague plus étonnante les unes que les autres, et l'autre, la main droite n'a rien.
Donc en effet c'est la main gauche, c'est-à-dire celle qui ne fout rien, qui a des bagues à tous les doigts. Déjà vous voyez, entre le classique et l'indien, vous ne verrez jamais un homme politique avec des bagues à tous les doigts, c'est pas possible. Donc il y a un côté, ça remet un peu le côté. Et puis la main droite, ben oui, c'est celle qui travaille, c'est qu'il faut pas qu'elle. Donc j'aime bien jouer sur vous savez, ce côté, ce personnage qu'on retrouve dans le film, c'est-à-dire il est pris par la scène qu'on a entendue, il dialogue avec l'Éternel comme ça. Et est-ce possible de parler avec l'Éternel? Il y a un défi comme ça. Et puis encore une fois, c'est un pasteur qui est un assassin.
Assez noir comme pasteur.
C'est un film qui vous a marqué aussi, j'ai l'impression.
Oui, moi je l'ai vu plusieurs fois. C'est un film qui m'a terrifié. Il m'a pas marqué, il m'a absolument terrifié.
Ça fait peur, ce film. C'est un très beau
film.
Tout est beau, la musique,
les
plans.
Et Robert Mitchum
est beau. Il fait la beauté du diable.
On reste juste une minute au cinéma, parce que vous aviez joué l'année dernière, ou il y a deux ans, dans Elle s'en va, le film d'Emmanuel Berco. Vous étiez l'amant dans la dernière partie de La cavale de Catherine Deneuve. Comment Emmanuel Berco était venu vous chercher? Est-ce que cette expérience vous a plu? Parce que vous avez monté du théâtre, mais sans jamais véritablement jouer, je crois. C'était la première expérience de...
Alors, j'avais joué au théâtre du Rond-Point. Joël Calmette, qui est metteur en scène, avait monté, à partir des commentaires d'un documentaire, il a réuni des textes, ça donnait une pièce qu'on a montée au théâtre du Rond-Point avec Denis Lavant, autour d'une mise en scène, autour d'une grande toile. Et Catherine Deneuve avait vu ce spectacle.
Et donc c'est comme ça que s'est fait l'histoire.
Oui, et comme Emmanuel cherchait plutôt des non-professionnels autour de Catherine Deneuve, Catherine Deneuve a pensé à moi. Elle a dit, voilà, il me serait très bien comme amant. Moi, je pouvais pas refuser. On peut pas refuser une chose pareille.
Le rendez-vous, la session.
La session, elle sera inédite à mi-parcours de l'émission Émilie Chaudet ce soir.
Ce soir, Nicolas Fintescu et Ezekiel Pélez, qui forment le duo Electronose, viennent tout juste de sortir un album bonus version remixée de Come With Us, cet album qu'ils étaient venus présenter chez nous dans le rendez-vous dans le studio 108 avec le titre I Need To Know. On va les entendre tout de suite sur une session inédite et programmée par notre réalisateur Thomas Beau avec ce titre mélancolique aux accents électriques des années 70. C'est Apache.
Thank you. Jesus suits. I wash my face barefoot on the street. I walk around people. Call me an Indian. People. Call me an Indian. My words are crude. My speech is sharp. To take the hint from what I say is not the ring. People. Call me an Indian. People. Call me an Indian. Steps. I crawl on the street. You don't feel safe when I'm around. People. Call me an Indian. People. Call me an Indian. The sight of love fulfill my dreams. I close my eyes so I can feel your breath above. People. Call me an Indian. People. Call me an Indian.
C'était donc Apache, un titre qu'on dirait programmé pour vous, Gérard Garou. Oui. C'était en référence à votre rêve d'Indien. C'est donc un titre de Nose qui figure sur l'album Come With Us sous le label Circus Company. Nose sera en concert le 5 juillet prochain à Calvi dans le cadre du festival Calvi and the Rocks, avant une tournée italienne entre Rome et Naples les 11 et 12 juillet. Ils seront également à Nantes le 18 septembre prochain dans le cadre du festival Scopiton. Le rendez-vous.
Plateau collection avec vous, Véronique Nichagnan. Vous êtes la styliste, directrice artistique des collections Hommes chez Hermès depuis 1988. Est-ce que vous vous souvenez de votre arrivée accueillie par Jean-Louis Dumas à l'époque ?
Oh oui, je m'en souviens très bien. C'est des moments qu'on n'oublie pas. Parce que vraiment, d'abord, Jean-Louis était un homme exceptionnel. Et puis, on s'était rencontrés d'une façon drôle parce qu'il m'a appelé un jour chez moi en me disant « Bonjour, je suis Jean-Louis Dumas, je voudrais vous rencontrer. » Et moi, j'ai cru que c'était une plaisanterie parce que je suis quelqu'un d'assez timide et d'assez en retrait, pas tellement dans ce monde, même si je passais mes nuits au privilège, mais quand même. Et j'ai pris ça pour une plaisanterie. Je lui ai dit « Mais qui me fait cette blague ?» et tout. Et donc, ça avait commencé comme ça, d'un ton assez joyeux, notre rencontre. Et après, quand je l'ai rencontré, j'ai trouvé que cet homme avait une vision de sa maison et il m'en parlait d'une façon qui m'a absolument enthousiasmée. Voilà pourquoi j'ai rejoint Hermès.
Alors que vous étiez à l'époque chez
Cerutti. J'étais l'assistante de Nino Cerutti, oui, qui m'avait pris en sortir de l'école. Donc j'ai commencé comme ça par hasard dans la mode masculine à 19 ans. Et je me suis dit, tiens, je vais faire ça, c'est intéressant. En plus, Nino était un homme aussi assez charismatique et brillantissime. Donc j'ai eu deux patrons exceptionnels. Mais voilà, donc je me suis retrouvée dans la mode masculine par hasard et très heureuse, très bien. Donc j'ai avancé tant qu'on est heureux. Enfin, moi, c'est ma philosophie, on avance. Et puis un jour, Jean-Louis m'a proposé de reprendre. À l'époque, c'était juste le prêt-à-porter homme. Et maintenant, donc, je dirige avec Pierre-Alexis Dumas la direction artistique de l'univers masculin, c'est-à-dire tout ce qui est accessoire également.
Est-ce que les premières collections que vous avez signées chez Hermès pour l'homme étaient contre Cerruti ou quand même dans une tradition qu'il avait pu initier, à savoir une déconstruction du costume?
Oui, bien sûr. Bien sûr, tout ça, tout ce que j'ai appris avec Nino, parce que Nino aussi a un groupe textile, donc je vivais à moitié de mes vies en Italie, et comme j'étais la petite jeune, tout le monde m'expliquait les trucs, je traînais dans les usines de tissus et tout, avec les techniciens, avec les modélistes, donc tout le monde m'expliquait tout, et j'ai appris beaucoup de choses. Mais non, quand je suis rentrée chez Hermès, c'était pas contre, mais c'est vrai que ces années 80 étaient les grandes années de la mode italienne. J'ai appris énormément de choses. Je dois dire que ça a été mon père spirituel. Mais il a fallu pas oublier tout ça, mais inventer une nouvelle identité. Parce qu'en fait, quand on a un professeur, c'est une chose. Mais après, faut écrire sa propre histoire. Donc, mes premières années d'Hermès, je m'en souviens très bien. Parce que dès que je dessinais quelque chose, je me disais, alors, est-ce que ça fait Hermès ou pas? Est-ce que c'est bien pour... Voilà. Et j'avais des tas d'interrogations. Et puis, un jour, je me suis libérée de tout ça. Je me suis dit simplement, je vais faire ce que je crois juste pour les hommes au jour d'aujourd'hui. Voilà.
Ça voulait dire quoi? Est-ce que ça fait bien Hermès? Il y avait des codes que vous vouliez respecter ou que vous fantasmiez?
Peut-être, oui, c'est ça, que je fantasmais, ou je me mettais une pression que la maison ne me mettait pas, puisque Jean-Louis Dumas, à l'époque, m'a dit « Écoute, je te donne carte blanche. » Donc, quand on est un créatif, c'est un rêve. Rentrer dans une maison comme ça, qui vous dit « Fais ce que tu veux, tu as carte blanche. » Donc, et encore aujourd'hui, j'y ai la même liberté, la même joie d'y travailler. C'était simplement d'inventer un vocabulaire masculin, français, une signature qui reflétait bien les qualités d'artisanat, les valeurs de cette maison, et puis aussi l'humour et la folie qui y règnent, parce que c'est vraiment ça, et c'est ce que j'aime.
Gérard Garoust, un commentaire, vous, quel regard vous portez justement sur la mode?
Que ce soit féminine ou la mode masculine, c'est très important. Et justement, on parlait du privilège et du palace, la mode.
Au début d'émission,
on a fait des grandes fêtes pour la mode. Mais en ce qui me concerne, vous savez, c'est drôle parce que j'aime ne pas être habillé n'importe comment, mais je m'habille avec des vêtements Lafon, des pantalons Lafon qu'on trouve au marché, tout simplement. Et ça, c'est pour un souvenir, parce que j'aimais beaucoup mon oncle qui était en Bourgogne tailleur de pierre, bûcheron, maçon et coiffeur, et alcoolique aussi. Et donc, je l'aimais beaucoup, et il était toujours avec ses pantalons Lafon, c'est ses pantalons de menuisier. Et on le trouve encore des pantalons Lafon, donc je m'habille avec des pantalons Lafon.
Mais je revendique un peu, justement, le fait que les hommes se créent une propre identité. On parle de mode masculine, et c'est une terminologie que j'aime pas tellement, parce que j'ai pas l'impression, et je ne veux... Moi, quand je dis que je fais du vêtement, ça définit un travail sur le tissu, sur la construction d'un vêtement. Alors, en effet, on défile parce que c'est la meilleure façon qu'on ait trouvée pour expliquer un propos d'association de vêtements. Mais je déteste un peu les gens à la mode et le total look, cette idée-là ne m'intéresse pas. Ce que j'aime dans l'expression des hommes, c'est en effet les mélanges personnels d'un pantalon Lafon, un vieux jean, une veste de son père, et puis quelque chose qu'on s'approprie. C'est ça qui est intéressant.
Justement, comment décririez-vous la façon dont s'habillait votre père?
Ah, oh, mais mon père était un homme très très élégant et très traditionnel et très une élégance très discrète, très toujours comme ça, des fils à fil gris foncé, bleu marine, j'ai jamais vu dans d'autres couleurs, et c'était oui, un homme dans une grande élégance et grande discrétion.
Et votre mère?
Et maman, alors, était une très jolie femme qui, elle, était plus... voilà, c'était les années 60, 70, donc la mode était plus joyeuse, libre, colorée. Oui, c'était un couple qui aimait la fête, qui aimait la vie.
Vous-même, à force de travailler le vestiaire masculin, est-ce que ça a eu un impact sur votre propre façon de vous habiller?
Certainement.
Parce que je crois que je ne vous ai jamais vu en robe.
Non, mais vous me verrez en talon aiguille. Non, le soir, je suis en robe, en talon, et bien sûr. Mais
qu'est-ce que ça a changé dans votre façon de vous habiller, en fait?
Non, mais c'est-à-dire que je suis concentrée sur mon travail et que comme je fais, je au désespoir de mes assistants, je fais 1000 trucs à la fois, donc j'essaie d'aller vite, donc je suis habillée d'une façon très efficace, je dirais, mais qui me va bien, en fait, parce que je suis un petit gabarit, donc je suis d'une façon...
Il y a un proverbe, à mon avis,
et
qu'il faut prendre exactement dans son contraire, c'est que l'habit fait le moine.
Oui, je crois qu'en effet, on exprime,
pour faire certaines choses,
sa personnalité.
Il faut accentuer sa personnalité avec certains...
Mais oui, on n'oblige personne. On est, Dieu merci, dans une époque où chacun exprime librement sa personnalité. Et c'est ça qui est formidable.
Émilie.
Véronique Nichanian, vous venez de présenter la collection Printemps-été 2016, une collection riche en imprimés, peut-être plus que d'habitude, sur des chemises, des vestes, des motifs abstraits. Une direction déjà présente cet été 2015, mais ça fait pas très longtemps. Comment cette tendance s'est imposée depuis quelques collections ?
Parce que j'ai envie peut-être de choses un peu plus joyeuses que les années précédentes et que ce qu'on entend, l'actualité pousse un petit peu à réagir et à reprendre un peu le bon côté des choses, qu'il y a assez de drames comme ça, personnels ou économiques et politiques. Donc apporter des imprimés, de la couleur aux hommes, parce que les hommes y viennent doucement, enfin... heureusement, et voilà, librement.
C'est pas que des imprimés, c'est véritablement... Non, mais les imprimés, il y avait toute une tradition chez Hermès.
Ce sont des dessins,
véritablement.
Oui, j'ai fait tout un travail sur une vitalité entre le graphisme et la poésie, en mélangeant un peu des fleurs ou des rayures, en traitant la rayure à l'horizontale plutôt que traditionnellement, des choses plus libres, et puis aussi, mais travailler sur des matériaux et des matières plus nouvelles, donc c'est ça que je trouve intéressant.
Vous dessinez à la main ou à l'ordinateur ?
Non, je dessine à la main, mais maintenant, j'ai des collaborateurs qui dessinent pour moi, c'est affreux, mais c'est un peu comme ça. Mais donc, je donne des idées et puis ils développent les idées, mais je dessine à la main, j'ai jamais travaillé sur ordinateur. C'est pas, je me sers beaucoup de mon ordinateur, mais pas pour dessiner.
Vous commencez par quoi? Pour une collection.
Je commence par les couleurs, hein, parce que c'est mon émotion passe par la couleur et par le toucher. Je suis quelqu'un, je pense, d'assez sensuel et l'approche, elle est tactile, elle est visuelle et je travaille sur la couleur, sur les matières et puis après ça, pour moi, ça induit des formes et après sur la construction du vêtement.
La couleur, c'est en choisissant des tissus.
La couleur, mais je peux déchirer un morceau de votre veste ou voilà, je vais partir avec un morceau du fauteuil.
Très indienne, hein, ce soir.
Absolument. On part en vacances, c'est la dernière émission, hein, l'avant-dernière.
C'est pas une gouache, par exemple.
Non, c'est-à-dire que je rencontre, c'est des rencontres, un morceau de nappe ou un... Bon, et puis bien sûr, j'ai des bocaux remplis de couleurs dans mon bureau, donc je...
Mais ça passe par la couleur au départ. Hein.
Ça passe chez moi par la couleur ou par la matière. Je peux tomber amoureuse d'un tissu. Tout le monde me regarde en disant, mon Dieu, c'est bizarre. Et puis, ce tissu est accroché dans mon bureau et puis ça fait son chemin dans ma tête et voilà.
Depuis 1988, vous n'avez jamais eu envie d'arrêter ou de passer à une autre maison. J'imagine qu'on a fait appel à vous, mais.
Oui, on m'a sollicité quelques fois, plusieurs fois, mais c'est vrai que je suis très heureuse dans cette maison. J'ai totale liberté. Ce sont des gens que j'apprécie. C'est une belle maison avec un...
C'est assez rare quand même d'avoir valeurs, une autre,
bien sûr,
telle
mais
longévité.
Je revendique le fait d'y être depuis longtemps dans ce monde qui zappe beaucoup et de chaises musicales chez les créateurs. Je suis là depuis 27 ans et j'en suis fière. Et je suis fière de présenter ma 54e collection. Enfin voilà, d'avoir une très bonne presse, d'avoir... des clients qui sont contents, qui me le disent ou que je croise dans la rue, et ça fait plaisir. Et en effet, je revendique aussi de faire des vêtements qui sont des vêtements qui durent. J'ai envie de choses qui durent, j'ai envie de construction, de belles matières, de choses que les gens ont envie de porter longtemps, des choses qui vous rendent heureux.
Quand je demandais si vous aviez eu, à un moment donné, peut-être pas l'intention, mais l'envie d'arrêter, est-ce que ça a pu être possible? Non pas de passer dans une autre maison, mais d'arrêter.
Pas encore, non, pas encore. Écoutez, franchement, le jour où je m'ennuierai, je ferai autre chose, ou je ferai rien, ou je regarderai les oiseaux et les fleurs, mais non, j'ai pas eu envie d'arrêter.
Émilie.
Parmi vos sources d'inspiration, Véronique Nichanian, vous citez surtout des architectes comme Tadao Ando, Le Corbusier, Franck Gehry. Et comment ces influences se traduisent-elles dans vos dessins ?
Elles se traduisent par la ligne, elles se traduisent par l'influence qu'a l'architecture sur la vie des gens, tout comme les vêtements, en effet, c'est quelque chose... moi, dans les architectes, que ce soit Tadao Ando, parce que c'est ces lignes très rigoureuses, ou Le Corbusier... me plaisent énormément, et puis un Franck Gehry ou une folie comme ça. Je suis assez rationnel, émotionnel. C'est-à-dire que je crois que je passe d'une chose à une autre et que les deux me nourrissent et m'inspirent. Donc, c'est exactement comme ça que je fonctionne.
Vous vous intéressez, je sais, à la mode depuis votre adolescence. Vous confectionnez des vêtements dès vos 14-15 ans.
Ça a été
certainement pour aller au palace ou au privilège.
Un épisode qu'on me rapporte souvent, oui.
Et pourtant, vous ne venez pas d'une famille liée à l'univers de la mode. Hein, votre père, originaire d'Arménie, concevait des desserts. Un mot sur l'Arménie, je sais que vous n'y êtes jamais allé. Vous ne parlez pas la langue et que pour vous, ce pays, c'est de l'ordre du cœur. Hein, c'est ce que j'ai pu lire dans les entretiens.
Fait.
On ne vous a rien transmis de cette histoire dans votre famille? Ça a été le silence?
Mon père, qui m'a eu très tard, qui avait quitté Istanbul après le génocide, n'en parlait rarement, n'en parlait jamais. Ma mère était française, parisienne, donc on parlait français à la maison. Mon père avait quelques mots tendres avec ses enfants, comme ça en arménien, mais c'est vraiment de l'ordre d'émotionnel. Je suis très touchée, en effet, et là, par l'anniversaire du génocide arménien. Et les seules choses que j'entendais de mon père, c'était qu'il souhaitait uniquement que la Turquie reconnaisse ce génocide. Voilà, cet homme qui est disparu il y a quelques années, c'est tout ce qu'il attendait, tout ce qu'il espérait, c'était qu'on reconnaisse quand même ce génocide arménien. Voilà, donc vous voyez, ça me donne la chair de poule parce que, voilà, je suis jamais allée en Arménie, j'ai envie d'y aller. En même temps, je sais pas comment je vais m'y sentir, je sais pas. Je suis assez partagée.
Gérard Garoust?
Bien, écoutez, c'est très émouvant, en effet. Je pense que tous les génocides sont insupportables. Et la moindre des choses, c'est de reconnaître les événements. Parce que si, pour changer l'histoire, il faut pas qu'elle se répète. Il faut tenir compte de ce qui s'est passé. Et vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on aurait tendance, dans la politique actuelle, d'oublier ce qui s'est passé dans la dernière guerre. On oublie ce que...
Oui, absolument.
Au contraire, c'est très très important de faire ce...
D'en avoir la mémoire, en effet, de rappeler aux gens ce qui se passe.
Le droit de mémoire c'est un devoir.
Comme à tous nos invités, on vous a demandé à vous aussi, Véronique Michelian, de nous apporter le son qui vous a marqué. Voici ce que vous avez choisi.
Pull back. Wait a minute. Go right. Stop. Enhance 5719.
Mais qu'est-ce qu'on entend ?
Oui, on entend le début. En fait, j'ai voulu mettre le début d'un film comme vous, Gérard. C'est le début de Blade Runner. Blade Runner qui a pour moi été un film, et j'en parle encore, qui m'a tellement marqué. À l'époque, j'avais fait des pieds et des mains pour avoir la cassette. À l'époque, il y avait des cassettes, bien sûr. Parce que ce film, d'abord, je réalise qu'il va avoir 35 ans dans quelques années et qu'il définissait le monde de 2019.
Ouais.
Et que je me dis qu'on est en 2015 et quand on voit Blade Runner, Los Angeles de Blade Runner, ça fait froid dans le dos.
Qu'est-ce qui vous avait marqué à l'époque ?
J'aime beaucoup la science-fiction. J'aime beaucoup cette idée comme ça de se projeter dans le temps, de se dire tiens, comment vivra-t-on, qu'est-ce qui se passera. C'est des romans que je lis beaucoup. Et tout ce monde, cette ambiance, je me souviens mille et une choses. D'abord, ça a été en effet maintenant, c'est devenu un vrai film culte, mais moi j'ai dû le voir, je sais pas, des dizaines de fois quand il est sorti parce que je trouvais très inspirant et très... J'aime beaucoup le Japon, on n'en a pas parlé. J'allais déjà beaucoup à Tokyo et ce grand écran avec cette femme qui parle, ça me rappelait tout à fait les grands écrans de Shinjuku, voilà, toutes les lumières, cette ambiance, et puis les gens d'en haut, et puis le peuple en bas qui vit comme ça. L'architecture aussi, puisqu'il y a cette très jolie là, Ennis House qui est à Los Angeles. Toute l'architecture et puis les réplicants, je me souviens de cette scène où elle se maquille à la bombe comme ça, où tout d'un coup elle se fait, puis elle ouvre ses grands yeux bleus. Il y avait des choses mais absolument géniales dans ce film. C'est une mine qu'on découvre encore. Quand je le revois, je redécouvre des scènes, des choses qui sont exceptionnelles. Et puis Harrison Ford, jeune.
Les adultes, soit ils sont naïfs, soit ils sont méchants.
Tant qu'on est heureux, enfin moi c'est ma philosophie.
Merci à nos invités, Véronique Michagnan, 27 ans d'Hermès, et bien ça continue. Et Gérard Garouste, votre exposition En Chemin, c'est à la Fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence jusqu'au 29 novembre prochain. Ça c'était pour aujourd'hui, demain.
Aujourd'hui c'est la qui
c'est super mortel.
Est-ce que vos bagages sont prêts?
Non, mais c'est super mortel.
La relève peut arriver d'un instant à l'autre.
Ah, c'est trop mortel.
Demain, ce sera mortel. Ce sera le dernier rendez-vous avec tout le monde, tous ceux qui ont fait le rendez-vous pendant ces 7 ans. La désannonce, Elsa.
Eh bien, c'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Émilie Chaudet, Aïssa Touendoy et Elsa Béranger. Journal de la culture Zoé Sfez, à la prise de son Tristan Gratalon et Clément Berman, et à la réalisation Thomas Beau.
Il est 19h54, vous êtes sur France Culture. Ben, c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès, de la comédie
française.
Alors, bonne soirée à tous et à demain.